Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses et nous allons prendre une première question qui vient du site internet.
Yes, thank you. So a question.
Oui, merci. Une question de Paolo Alghisi de ENSA. Une vague de rapprochement et de consolidation est en train sur le secteur financier italien, ce qui peut impacter la structure capitalistique de Generali, sachant qu'il y a eu des rumeurs que AXA pourrait être intéressé, notamment dans une situation où MPS, son grand actionnaire, pourrait céder sa participation. Pouvez-vous commenter quel peut être l'intérêt d'AXA dans Generali si MPS décidait de céder sa participation? Merci Paolo pour cette question, dit Thomas Buberl. De fait, beaucoup de choses sont en train de se passer en Italie autour de notre partenaire bancaire Monte dei Paschi, MPS. Nous attachons à faire en sorte que notre co-entreprise avec PS se passe le mieux possible et vous aurez vu dans notre présentation que nous nous focalisons sur la performance opérationnelle, le développement et la croissance organique et n'est pas effectivement une stratégie qui vise à racheter les participations de nos concurrents. Merci.
La première question est pour Jean-Luc Champetier d'Investir. Jean-Luc, merci d'activer votre micro, c'est à vous.
Oui, bonjour messieurs. Sur MPS, est-ce que vous pouvez rappeler exactement ce partenariat, le chiffrer, et nous rappeler son échéance normale, puisqu'il y a un risque de remplacement éventuellement par un autre assureur. Ensuite, deux questions plus techniques. Le ratio combiné, ce serait intéressant, je crois, c'est important d'avoir le détail des évolutions des sinistres payés ou provisionnés, des frais de gestion et des frais de commercialisation en pourcentage des primes au premier semestre et au premier semestre de 2025. Je n'ai pas vu de slide détaillant ce ratio combiné. Et enfin, vous indiquez que les réserves de prudence ont augmenté en assurance dommage. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur, ce que ça représente? Merci.
Merci Jean-Luc pour vos trois questions. Je propose que moi je prends la première sur le partenariat avec MPS et Alban de Maynel va prendre les deux autres sur le sujet de ratio combiné et les réserves de prudence sur le partenariat. Il est vrai qu'on a un partenariat depuis un long moment avec MPS qui a connu des phases très différentes. Rappelons que MPS n'était pas toujours dans une situation facile dans le passé. Ce partenariat va courir jusqu'à octobre 27 et je pense à ce moment. Cependant, c'est ce qui se passe avec MPS, la question de Paolo avant. On va voir comment ça va se montrer dans la continuation de notre partenariat. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt de réfléchir là-dessus parce que, comme la question de Paolo l'a montré, il y a beaucoup de pistes de mouvement de M&A sur la partie bancaire en Italie. Et je pense qu'il faut d'abord attendre d'où ça va atterrir avant de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire pour notre partenariat. Il est important que à vous rappeler, Jean-Luc, que le partenariat avec MPS en Italie est très important pour nous. Néanmoins, dans les dernières années, on a quand même fait deux acquisitions importantes en Italie. Une était Nobis et l'autre était Prima. consolider cette année au semestre 2026 pour la première fois. Deux acquisitions qui marchent très bien, qui ont stabilisé et grandi notre empreinte en Italie. Je veux dire, bien sûr, on aimerait continuer notre partenariat avec MPS au-delà d'octobre 27, mais même au cas où il n'y a pas de continuation, on s'est bien préparé pour avoir une empreinte en Italie qui représente quand même un marché très important pour nous, qui est bien suffisamment large pour aussi, je veux dire, se préparer pour le cas éventuel où ce partenariat ne continue pas. Alban, pour les deux autres questions.
Bonjour Jean-Luc. Alors, sur le ratio combiné, voici le détail. Donc, quand on regarde par grande géographie, donc je commence par AXA XL. Le ratio de sinistralité d'AXA XL a augmenté de 1,2 point et c'est intégralement dû au coût des sinistres dans le Golfe. Vous avez peut-être vu dans le communiqué de presse que nous avons chiffré ça à environ une centaine de millions. Et donc, hors ce coût-là, le ratio de sinistralité d'Excel est stable, ce qui est une très belle performance dans l'environnement de prix d'AXA Excel. Quand je passe à l'assurance des entreprises hors Excel, le ratio de sinistralité s'est amélioré de 0,5 points. Encore une fois, une belle performance qui reflète la qualité de notre souscription. Et il en va de même pour l'assurance des particuliers, où ce ratio s'est amélioré de 0,2 points. Quand je regarde maintenant les coûts en assurance dommage, nos propres coûts ont vu le ratio s'améliorer de 0,4 points. Donc c'est dû à un effet de ciseaux positif entre la jolie croissance que nous avons eue et le fait que, bien évidemment, nous sommes rigoureux sur la gestion de nos coûts. Inversement, le taux de commission a augmenté de 0,4 points, donc a compensé les économies que nous avons faites sur nos propres coûts. Et c'est simplement un reflet de du mix de business que nous avons souscrit au premier semestre. Et je finis par les ratios combinés en prévoyance et en santé. En prévoyance, le ratio combiné s'est amélioré de 0,5 points et en santé de 1,2 points. Vous savez qu'en santé, nous avons d'excellentes performances maintenant au Royaume-Uni et en Irlande. Vous vous rappelez peut-être que il y a 2-3 ans, c'était une activité qui avait vu son ratio combiné augmenter. Nous avons produit de nombreux efforts pour en améliorer la qualité de la souscription, qualité de la gestion des sinistres, ce qui nous permet maintenant d'avoir un très beau ratio combiné en Angleterre. Mais d'une manière générale, l'amélioration du ratio combiné en santé provient de l'ensemble de nos pays. Votre dernière question portait sur la prudence dans nos réserves. Donc, nous ne mettons pas un chiffre derrière cette prudence. Ce que je veux juste souligner, c'est que nous avons relâché un point de boni, ce qui est un niveau historiquement bas. Il est arrivé que dans le passé, nous fassions 2 points, parfois 3 points de boni. Et donc, le fait que nous relâchions seulement un point montre que nous gardons beaucoup de cette prudence pour nous.
Merci Alban. On passe à la prochaine question.
La prochaine question est posée par Thierry Goubi de News Assurance Pro. Thierry, merci d'activer votre micro. C'est à vous.
Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, parfait.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai deux questions. La première à propos d'AXA XL. Au-delà de la sinistralité, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent la baisse légère du chiffre d'affaires en assurance et en réassurance ? Ma deuxième question porte sur Direct Assurance. Guillaume a, je cite, parlé de performance extraordinaire. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail ? Peut-être chiffre d'affaires, gains de nouveaux clients, etc. Merci par avance.
Merci Thierry pour vos deux questions. Je propose que la première question sur AXA XL va être prise par Guillaume Bourri. Et la deuxième sur Direct Assurance, on est aussi avec Mathieu Godard qui est directeur général d'AXA France. Il va vous en parler. Guillaume.
Merci beaucoup. Bonjour Thierry. Donc sur AXA XL, le chiffre d'affaires effectivement baisse en agrégé de 2% et c'est le résultat d'une baisse sur l'activité de l'assurance de 1% et sur l'activité de réassurance de 9%. Sur l'activité de réassurance, c'est tout à fait en ligne avec la situation générale du marché. C'est même meilleur que la plupart de ce qu'on observe sur le marché. Et surtout, ça se fait dans d'excellentes conditions de rentabilité, puisque sur la seule activité de réassurance, le résultat progresse fortement de 6%. Et donc, on considère que l'activité est exactement positionnée là où il faudrait. Sur l'activité d'assurance, c'est le résultat du cycle actuel que nous connaissons. Au global, au niveau mondial, sur l'assurance des grandes entreprises, il y a un net ralentissement. Et quand on regarde, c'est la traduction pour nous d'une gestion du cycle proactive dont nous sommes satisfaits. Concrètement parlant, l'effet prix en lui-même baisse de 1% et les volumes sont stables. Donc ça veut dire que pour XL, il y a un management très actif du cycle pour aller chercher la croissance là où on peut la trouver dans de bonnes conditions de rentabilité, pour continuer à maintenir les volumes sur les lignes où nous avons encore une rentabilité très forte, même si c'est vrai que les prix baissent, et ça c'est particulièrement vrai de l'assurance property, où on a encore un excellent ratio combiné, et donc même si les prix baissent, on continue de souscrire dans de bonnes conditions, et pour ne pas aller chercher de croissance de volume dans les métiers dans lesquels on observe une baisse des primes trop forte qui ne couvre plus le coût des sinistres. Il faut garder en tête que ce management du cycle, on va continuer à le faire dans les prochains mois et les prochains semestres, et qu'on opère dans 26 pays avec 400 produits. Donc l'enjeu, c'est que pour chacun de nos souscripteurs, il faut prendre au quotidien les bonnes décisions pour équilibrer le portefeuille. Quand, au global, on observe un cycle en net ralentissement dans l'ensemble de l'assurance des grands risques dans le monde, de notre côté, on a une activité qui se maintient avec un chiffre d'affaires globalement stable et un ratio combiné qui, lui aussi, en dehors des pertes au Moyen-Orient, est tout à fait stable. Un résultat opérationnel qui, lui, en agrégé, progresse de 4%. Eh bien, on considère qu'AXA XL est très bien positionné dans le cycle actuel et que les équipes font un travail remarquable.
Bonjour à tous. Merci Thierry pour cette question concernant Direct Assurance. Donc oui, effectivement, Direct Assurance réalise une performance tout à fait exceptionnelle dans son développement, année après année, avec sur ce premier semestre un rythme égal à 20% de développement de son chiffre d'affaires, avec une conquête de nouveaux clients tout à fait spectaculaire. Pour vous donner quelques chiffres, environ 150 000 nouveaux contrats en automobile et un peu plus de 70 000 nouveaux contrats enregistrés en MRH. Tout ceci combiné avec une sophistication tarifaire qui continue de se développer chez Direct Assurance et qui d'ailleurs est une occasion pour l'ensemble du groupe AXA de passer à l'échelle sous cette perspective, mais aussi une rigueur absolue dans la gestion des sinistres, ce qui permet de trouver le bon équilibre dans le couple croissance-rentabilité. Et je voudrais aussi souligner, dans le cadre de la dynamique sur laquelle est engagée Direct Assurance, le chemin de diversification, notamment avec la conquête dorénavant dans la santé individuelle, mais aussi l'assurance emprunteur. Donc une très très belle performance effectivement de Direct Assurance qui confirme sa place de leader incontesté sur le marché du direct en France.
Merci Mathieu. On passe à la prochaine question.
La prochaine question est posée par Ingrid Feuerstein des Échos. Ingrid, merci d'activer votre micro. C'est à vous.
Bonjour à tous. Moi, j'ai une question sur la gestion des coûts parce que vous dites que donc dans l'un des trois leviers pour atteindre vos objectifs financiers, c'est l'optimisation de la gestion des coûts. Je voulais savoir si de nouveaux plans de réduction de coûts étaient en réflexion, notamment en lien avec le déploiement de l'IA. Vous avez décrit l'impact pour l'efficacité opérationnelle des employés. Or, on voit certains établissements financiers qui sont en mesure de dire combien, finalement, quel sera l'impact sur les effectifs au global et finalement, quelle place tout ceci tiendra dans votre prochain plan stratégique annoncé en septembre. Merci.
Merci Ingrid pour votre question. Je vais laisser Guillaume Bory répondre. Une chose qu'il faut garder en tête, bien sûr, aujourd'hui on n'est pas au 15 septembre. Dans quelques semaines, on va vous montrer exactement notre plan. L'IA va jouer un rôle important là-dedans. Quand on pense à l'intelligence artificielle dans l'assurance, il est important de penser large, dans le sens que oui, il y a une question sur l'automatisation et sur l'amélioration du service client qui a certainement des effets sur les coûts. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que l'intelligence artificielle va aussi beaucoup et nous aide déjà beaucoup sur l'augmentation de nos marges et aussi sur l'augmentation de notre croissance. Et je pense qu'il est important dans l'intelligence artificielle de trouver un bon équilibre entre ces trois. Et Guillaume, sur la question des gestions des coûts.
Merci beaucoup. La gestion des coûts, je dirais que c'est d'abord et avant tout pour nous tous à travers le monde une question d'hygiène quotidienne. C'est un effort de tous les jours sur deux principaux sujets. Premièrement, la productivité opérationnelle. Nous gérons des processus industriels de masse. La très grande partie de nos coûts sont liés à des coûts de vente de nos solutions et à des coûts de gestion de l'ensemble de nos sinistres et des services aux clients. Ce sont des processus industriels de masse sur lesquels, toute la journée, nos équipes doivent s'interroger sur la façon de faire mieux, d'automatiser, d'optimiser le processus, de raccourcir les temps de cycle. Et à notre disposition, nous avons de très nombreux outils, dont font partie, bien sûr, les outils technologiques. C'est une pratique que nous avons déjà depuis de nombreuses années à travers toutes nos entités opérationnelles. Et cette productivité, elle est au service aussi de notre capacité industrielle à aller chercher de la croissance sans systématiquement recruter ou augmenter les coûts de façon linéaire. C'est bien ça qui est traduit par la baisse du ratio de frais généraux de 40 points de base depuis le début de ce plan stratégique. Le deuxième instrument dont nous disposons au service de la gestion de nos coûts, c'est notre discipline d'achat. Au quotidien, nous achetons de très nombreuses prestations dans le monde et nous ne cessons chaque année de renforcer la discipline que nous avons dans nos politiques d'achat et nous avons encore ces derniers mois accentué l'effort sur ces sujets. Donc c'est des leviers opérationnels très concrets qui nous permettent chaque année d'aller chercher davantage de croissance avec une base de coûts maîtrisée.
Merci Guillaume. On passe à la prochaine question.
Glenn Tirpa, Intelligent Assurer. Dans votre commentaire par rapport à AXA XL, vous avez dit qu'il y avait davantage de volume dans l'activité dommage et moins en responsabilité civile. Qu'en est-il de la responsabilité civile? Pouvez-vous nous donner les éléments entre les différents métiers de spécialité, les métiers financiers, le dommage et effectivement la responsabilité civile? Merci Glenn pour cette question. Je suggère qu'Alban réponde à ces questions. Merci Glenn, effectivement. Eh bien, concernant, comme l'a dit Guillaume Bory, l'activité de dommage, nous sommes en croissance. Il n'y a pas de classe particulière en responsabilité civile où nous voudrions réduire nos expositions. Non, c'est un segment d'activité qui est rentable. Donc, activité par activité, police par police, ce sont les souscripteurs qui prennent leurs décisions. Lorsqu'on regarde nos différentes lignes de métier, et là je réponds à votre question concernant les tarifs. Eh bien, sur l'activité dommage, au global, les tarifs sont en baisse de 7%. Ceci ne prend pas en compte le fait que, simplement par l'effet de l'inflation, la compensation se fait de 2 à 3%. du fait de l'augmentation de la valeur des polices. Donc les tarifs sont en baisse de 7%, comme je l'ai dit, ce qui évidemment est en dessous du taux de l'inflation, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction. En responsabilité civile, les tarifs sont en hausse de 4 à 5%, ce qui est une bonne chose, mais légèrement en dessous du taux de sinistralité, ce qui est entre 6 et 8%. Alors, du côté des activités financières, les tarifs sont en baisse de 2 à 3%, ce qui est intéressant. Sur cette ligne de métier, vous savez que les tarifs sont en baisse depuis 2 à 3 ans. Et nous voyons effectivement que cette tendance se réduit, notamment dans les derniers mois du semestre. Nous pensons que les tarifs devraient augmenter dans les lignes de métiers financières. Et dans les métiers de spécialité, les tarifs sont stables et même légèrement négatifs. Eh bien, au global, donc, avec ce tableau global, nous sommes très heureux, comme l'a dit Guillaume, de constater que chez Excel, la réduction des tarifs n'était que de 1%, moins 1%, ce qui montre notre agilité à croissance là où c'est pertinent et à réduire nos expositions là où la rentabilité n'est pas au rendez-vous.
Prochaine question.
Next question is
la prochaine
from
question
Ben Dyson
est posée par Ben Dyson de S&P Global Market Intelligence.
Ben,
vous avez la parole,
Ben. Microphone and go ahead.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, une question concernant les 100 millions dont vous avez parlé de l'impact du conflit du Moyen-Orient. Quelle ligne de métier est appliquée? Quelles réserves, effectivement, sont affectées? Et est-ce que vous anticipez davantage d'impact? Deuxième élément sur les incendies qui affectent la France et l'Espagne. Pourriez-vous nous en dire plus concernant l'ampleur des sinistres et leur impact pour le groupe AXA? Nous donner des indications sur vos anticipations de pertes donc dans la période à venir. Merci. Merci Ben pour ces deux questions, dit Thomas Buberl. Je vais répondre à la deuxième et Alban répondra à la première sur l'impact au Moyen-Orient, sur les feux et les incendies en France et en Espagne. Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, il est un petit peu tôt, les incendies sont toujours en cours, en tout cas en France. Et nous concentrons nos efforts à aider nos clients là où ils en ont besoin pour qu'ils reviennent à une situation plus normale, à savoir nous essayons de simplifier, d'accélérer les procédures lorsque nous essayons de les reloger ou les aider à se reloger, accélérer le remboursement de leurs sinistres afin qu'ils puissent revenir à une situation plus normale. Il est beaucoup trop tôt, beaucoup trop précoce pour vous donner des indications sur un impact en termes de sinistres, parce que nous sommes encore au milieu de ces sinistres. Mais c'est la même chose pour le Moyen-Orient, je voudrais vous rappeler cela. Nous avons une stratégie diversifiée, à la fois du côté de nos actifs, mais également du côté de nos risques assurantiels. Donc ce que vous pouvez constater, si vous revenez dans un passé récent, ces 3-4 dernières années, que nous avons subi un certain nombre de ces événements, bien entendu, qui nous ont toujours préoccupés, mais aucun de ces événements catastrophiques ne nous ont impactés d'une telle manière que ceci aurait généré de la volatilité dans nos résultats ou que nous aurions véritablement été fortement, fortement impactés. Et ceci est le résultat de notre diversification et le fait que nous soyons exposés sur la plupart des activités des marchés, mais pas de façon déraisonnable. Alors sur le conflit au Moyen-Orient, dit Alban de Mayenel, comme vous le savez, nos polices traditionnelles indiquent que les situations de conflit et de guerre sont des exclusions. Nous sommes exposés aux pertes en matière de guerre par une ligne de métier spécifique qui s'appelle guerre, terrorisme et violence politique que nous commercialisons auprès de certains de nos clients et seulement à certaines catégories de clients. Il est vrai que dans cette activité, nous protégeons et couvrons des actifs physiques comme des usines et des sites de production dans la région, mais également des avions et des navires. Donc, au global, une centaine de millions de pertes a été enregistrée et a été indiquée. C'est une estimation, évidemment, parce qu'il est difficile, voire impossible, de quantifier et même de visiter, de rendre visite à ces actifs. Donc la grande majorité de ces pertes estimées à date sont effectivement des IBNR. Et ne sont pas encore enregistrés en réserve. Et nous sommes confiants dans les réserves que nous avons en place. Donc avec la réouverture du détroit d'Ormuz, en ce qui concerne nos expositions se sont réduites de façon significative en ce qui concerne les navires, parce qu'un grand nombre de ces navires a traversé le détroit d'Ormuz grâce au cessez-le-feu.
Thank you. Alban, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il n'y a pas d'autres questions. Merci.
Très bien, dans ce cas-là, je vous remercie pour votre attention et certainement pour vos questions et je vous souhaite un bel été et des bonnes vacances. Merci.